Oui, bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 11h pile à la pendule de Radio Canu et comme tous les dimanches de 11 à 12. Attention, c'est la dernière émission de la saison, pas d'émission la semaine prochaine, c'est musique, etc. qui commence avec aujourd'hui dans les studios du rock'n'roll à fond les ballons. On peut le dire, avec le groupe Complexe de Peter Pan, mais avant de découvrir leur chanson, je vous propose un petit bout de générique. Chers auditeurs, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est musique, etc. qui commence, une émission essentiellement consacrée à la scène émergente et alternative, tous les dimanches de 11 à 12 sur Radio Canu, et vous pouvez également nous retrouver sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc. pour les émissions précédentes avec d'autres artistes. Aujourd'hui, je reçois dans les studios les deux membres du groupe Le Complexe de Peter Pan, en la personne de Jérôme et de Ludo. Jérôme, Ludo, Le Complexe de Peter Pan, bienvenue à Radio Canu, bienvenue dans Musique, etc.
Eh bien, merci à toi de nous accueillir.
Donc, vous venez de nous présenter un album qui s'appelle, alors j'ai eu du mal à le prononcer, Rocking Blank, on peut dire ?
Rocking Blank.
Rocking Blank, donc il y a 8 titres. On essaiera d'en écouter un maximum tout au long de l'émission. Mais peut-être avant d'écouter, j'ai qu'elle un premier morceau, mais peut-être avant de l'écouter, faire un petit historique de votre groupe, Le Complexe de Peter Pan. Ça fait combien de temps que ça existe ? Je crois que vous avez des liens de parenté tous les deux, éventuellement, en parler.
Alors, je sais. Donc, moi, c'est Jérôme, mon frère, c'est Ludo. Donc, moi, je suis le batteur et Ludo est le guitariste, bassiste, compositeur. Voilà. Ça fait 8 ans, je pense, qu'on a commencé ce truc. On s'est traîné des groupes pendant des années où les gens nous lâchaient tout le temps. Donc on a fini par décider de jouer tous les deux. Voilà. Et voilà.
Après une grosse pause, en fait. On peut dire on a arrêté de faire de la musique pendant peut-être une bonne dizaine d'années, je dirais.
Ouais, et puis là, donc en fait, il y a une batterie, une guitare et un chant. Guitare électrique, bien sûr, ouais. Et chant.
C'est ça. Fait une guitare électrique qui joue dans un ampli basse et un ampli guitare.
D'accord. Et pour les non-musiciens, du coup, qu'est-ce que ça change au niveau du son de la guitare ?
Ça ramène du grave, quoi. Ça permet de un peu de combler l'absence de basse.
Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est en français, donc souvent le punk, si on peut appeler ça du punk,
du blunk.
Le blunk, ouais. Le blunk, ça veut dire un mélange entre blues et punk. C'est souvent en anglais, en yaourt, et là, en fait, il y a des textes en français à écouter.
On a essayé, du départ, le projet c'était un peu ça, parce que, en fait, il y a actuellement, je trouve, énormément de groupes, on va dire, nous, ce qui nous intéressait quand on a recommencé à faire de la musique, c'est de faire du rock à guitare, en gros, quoi, pour résumer le propos. Et il y a beaucoup de groupes en France qui jouent super, mais je trouve que ça manque, on trouvait qu'il manquait de groupes chantant en français et en faisant de la musique un peu carton, quoi. C'est un peu difficile à trouver, je trouve, dans le style qui en tous les cas nous intéressait, nous.
Moi, je confirme, puis souvent, moi, il y a des petits jeunes, c'est pas péjoratif, mais des petits jeunes, de jeunes musiciens qui ont 20 ans, et qui me disent qu'en fait, quand je leur demande pourquoi ils chantent en anglais, ils me disent qu'il y a que l'anglais qui sonne pour le rock, que c'est la langue du rock. Parce que je pense qu'ils ont connu que ça, ils ont pas connu peut-être d'autres influences que vous avez pu connaître vous. Et toi, justement, le complexe de Peter Pan, parmi d'autres groupes, c'est la preuve qu'on peut faire sonner le français et envoyer du bois, comme on dit vulgairement. Quoi.
Ouais, c'est vrai qu'au départ, moi j'avais un peu des problèmes en me disant comment faire chanter en français, mais sur du rock. Pour pas que ça sonne chanson rock, quoi. Comment dire ça, je sais pas comment dire ça. Pour pas que ça sonne variété, hein, qu'est-ce que t'es variété. Et dans les thèmes et dans la façon de chanter, c'est toujours c'est un problème au départ, c'est vrai. C'est vrai que quand on fait une chanson et quand on chante un yaourt par-dessus, du faux anglais, on va dire, c'est tout de suite plus évident, quoi. Et puis surtout en France, à partir du moment où on chante en français, effectivement, il faut les gens écoutent les textes, alors qu'en anglais, on peut chanter. Il suffit de trouver un chanteur qui a un peu de la voix et qui sait se poser sur une musique. Ça sonnera tout de suite bien, quoi. Et peu importe le texte au final, puisque on a l'habitude d'entendre des choses en anglais et pas forcément chercher une signification. En français, ça devient, c'est tout de suite. On a un peu derrière nous toute une tradition de chansons françaises qui est des fois un peu lourde à porter, si tu veux, avec Brel, Brassens. Enfin, il y a des gros noms derrière, quoi. Donc à partir du moment où on écrit des textes en français, on a un peu cette pression de se dire. Voilà, les gens vont aller chercher, vont aller écouter le texte, etc. Quoi. Donc on est un petit peu pris entre deux feux, quoi. Mais je trouve que l'intérêt du groupe de faire du rock en France, c'est justement de chanter dans sa langue, quoi. Moi, par exemple, j'ai pas mal écouté aussi du punk espagnol, par exemple. Je trouve que c'est l'intérêt, c'est justement que ce soit en espagnol. S'il y a un groupe punk espagnol qui chante en français, ça me semble moins intéressant, si tu veux, par exemple.
Puis un univers, on peut dire, on va le découvrir au fur et à mesure, je dévoile rien, mais vous en parlez dans une des chansons, mais peut-être un univers à la Tim Burton. Il y avait un côté un peu, j'allais dire glauque, mais pas tellement, parce qu'il y a quand même pas mal d'humour, mais un côté un peu sombre, un peu fantastique
Il peut y avoir ça. En fait, je me suis aperçu c'est plus rétrospectivement, on va dire, que j'ai pas vraiment pensé à ça avant d'écrire les paroles, mais en tous les cas, rétrospectivement, je me rends compte que c'est toujours des petites histoires au final. Ça raconte toujours, il y a toujours un début, une fin, une histoire. C'est des petites des historiettes. Ouais.
Mais sombres.
Mais sombres parfois. Ouais.
Sombre, mais avec de l'humour.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un humour un peu caustique, quoi.
Ou une certaine distance, quoi. Mm-hmm. Et puis une dernière question avant que j'envoie le premier morceau, le complexe de Peter Pan, d'où ça vient ce nom de groupe, qui est excellent, je trouve. Moi, c'est un livre que m'avait offert ma mère quand j'avais 30 ans, parce que je voulais pas grandir, mais c'est le nom d'un livre de psychologie.
C'est un vrai syndrome. Ouais. C'est le syndrome aussi de l'enfant tambour. Je sais pas si t'as vu ce film, c'est un vieux film.
Qui était magnifique. Quoi.
Là, c'est exactement la même chose. Le gamin, il se balance dans les escaliers pour pas grandir parce qu'il voit ce monde. Ça se passe en Allemagne, je crois, pendant la montée du nazisme.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et le complexe de Peter Pan, ça vient du fait que quand on a repris la musique, justement, il y a 8 ans, mon frère venait d'avoir 40 ans, et c'est un peu stupide. Enfin, il y a un petit côté, comment dire, retour à l'adolescence de monter un groupe de rock quand on a 40 balais, quoi, tu vois. On monte un groupe de rock quand on a 15 ans, quoi, 16 ans, ou je sais pas.
Il y a des gens qui sont sur scène qui sont plus âgés encore.
Oui, c'est vrai. Et mon frère aime beaucoup la BD aussi, donc il avait le Peter Pan de Loisel, je sais pas si tu connais cette BD, qui remet un peu la vraie histoire de Peter Pan, qui est assez tragique en fait par rapport à ce qu'on a fait Disney. Le personnage est plus un personnage beaucoup plus ambigu que ce qu'on voit dans le dessin animé de Disney en tous les cas. Donc il y avait aussi ce clin d'œil à cette BD, quoi.
On écoute à quoi ça ressemble, le complexe de Peter Pan, et je vous propose qu'on écoute la lettre de suicide. Voilà, le complexe de Peter Pan sur Radio Canu. Thank you.
trépassé.
Suicide par le complexe de Peter Pan sur la Decanu dans musique, etc. Donc c'est le morceau qui ouvre l'album. Jérôme, Ludo, peut-être dire un mot sur ce morceau, sur le sens du texte, et puis éventuellement comment il a vu le jour au niveau de la musique et de sa genèse musicale.
Alors, sa genèse musicale, je ne sais pas. En fait, le morceau... On avait envie de faire quelque chose qui claque, mais avec une mélodie, un fond très pop. En fait, on en avait marre du punchak comme on sait bien le faire. Et on avait envie d'un morceau qui soit plus, plus pop. Où on puisse s'exprimer dans les chœurs, dans les voix et tout ça, mais qui bastonne quand même aussi. Et après, le texte, tout ça, ça c'est Ludo, je sais pas par où ça lui est sorti.
Ouais, Ludo, tu as connu une jeune femme peut-être qui était en détresse.
Non, ça c'est un peu au niveau du texte, c'est un peu le chantage au suicide. Des fois, quand on se sépare, il peut y avoir ce genre de truc, quoi. Et ça parle un peu de ça, quoi. Et j'avais aussi des souvenirs de mon frangin qui sortait avec une nana qui le menaçait toujours de suicider quand il n'obéissait pas à ses desiderata, donc elle se suicidait à peu près tous les week-ends. Quoi. C'était même l'habitude chez elle. Quoi.
D'accord.
Mais elle a jamais réussi.
Ah non.
Puis elle n'est jamais vraiment passée à l'acte. Elle a toujours envie. Puis là.
Non. Voilà. Donc c'était plus pour prendre le.
Elle va mourir de sa belle mort.
Oh. Et puis musicalement, moi j'ai, c'est un riff un peu inspiré un peu des morceaux des premiers Who ou des Kings, ce genre de riff. Et j'avais envie de faire un truc comme ça, un peu année. Il y a un petit côté années 60 dans ce riff. Il y a un petit hommage caché au Who, même dans les chœurs du début, quand ça fait justement Who, sur la montée là, du début. Et voilà, il y a un petit clin d'œil sur les premiers titres des Who.
Et justement, vos influences, tu parles des Who, des Kings, Ludo, Jérôme et Ludo, peut-être faire un tour de table, savoir ce que vous avez beaucoup écouté, qui a peut-être nourri le complexe de Peter Pan, mais aussi votre vie d'auditeur de musique et de musicien.
Ouais. Alors, clairement, nous, on est le mouvement alternatif nous a pris et nous a... On est, quand les Parabellum, OTH, etc. sont sortis, on s'est dit « Ah, ça c'est de la zik ». Moi j'écoutais du punk anglais déjà avant, mais réellement, à partir du moment où il y a eu ce mouvement de musical en France, là, on est tombé dedans. Nous, OTH, c'est le groupe qui nous a fait donner envie de faire de la musique, vraiment, quoi.
On avait commencé un peu avant.
Excuse-moi de te couper, Ludo, et les Berruriers Noirs y compris, peut-être, non ? Ou moins ?
Berruriers Noirs, j'avoue que j'ai pas accroché au départ. En disque, en tout cas, ça m'intéressait pas. En concert, c'était vraiment génial, mais j'écoutais pas ça chez moi.
Plutôt au TH.
Ouais, Parabellum, Les Shérifs.
Les rats,
d'autres trucs un peu avant qui étaient un peu plus oeil, je crois au départ, dont on s'est vite lassé, tout ce qui était sorti KO en France, les compiles là où il y avait plein de groupes, c'est comme ça qu'on a découvert aussi. Le punk rock.
On a commencé par. En fait, quand OTH, enfin Parabellum, tout ça, sont arrivés, on avait déjà commencé à faire de la zik.
Ouais.
On écoutait plus. En fait, ce qui existait en France à l'époque, en groupe français, effectivement, c'était les groupes des compilations KO en France. Et avant, ce qu'on a écouté quelques années encore avant, on a dû commencer à écouter du punk vers 14-15 ans. Quoi. On écoutait beaucoup de punk anglais. Quoi. On ne connaissait pas grand chose en français. Après, on s'est mis à écouter ces compilations punk françaises, la KO en France, etc. Et c'est vrai, quand. Moi, pour ma part, j'écoutais aussi pas mal de rock comme les Nomads, tu vois, des groupes comme ça. Enfin, j'étais assez branché garage ou les Godfathers. J'ai toujours eu ce côté rock'n'roll, si tu veux. Ce genre de groupe. Ou Dr. Feelgood, ou tu vois, des. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui du pub rock, ouais, je sais pas si. Bon, enfin bref. Et finalement, quand OTH justement sont arrivés, ou Parabellum, les rats, justement ils avaient plus ce côté rock'n'roll ou punk 77 qui m'allait mieux que finalement le. Voilà, que ce qui existait en français auparavant, en tous les cas. Et puis on a écouté pas mal de. On a été pas mal de hardcore aussi à une époque par la suite.
Du metal hardcore, tu veux dire ?
Non, punk hardcore.
Du punk hardcore.
Ouais, plus Dead Kennedys.
D'accord.
La seconde vague punk, plus américaine, du coup. Avec aussi quelques. Non, c'était plutôt américain, tout ça. No Means No.
Victims Family.
Des choses comme ça, ouais. Plus. Ou aussi Go Fetal, par la suite, je sais pas si tu veux. Là, il y avait un côté déjà metal un peu là-dedans. Mais ça restait, ça restait quand même, oui, assez. Et puis après, moi j'écoutais plein d'autres sortes de musique en fait, même avant, c'est-à-dire que la chanson française et la musique, pas mal de musique latino-américaine, enfin j'aime plein d'autres choses que du rock, quoi.
Et en chanson française, du coup, tu écoutes.
Ah ben, en chanson française, j'ai écouté des classiques, quoi, du Gainsbourg, du Brel, du Brassens. Enfin, c'est familial. Enfin, chez moi, mon père écoutait beaucoup de Brassens. Donc voilà, quoi. C'est plus un truc qui m'est resté d'un. On va dire de l'enfance, quoi.
Et tu penses que, par exemple, Brassens, ça peut inspirer le complexe de Peter Pan, ou de façon peut-être un peu...
De toute façon, on va dire, je sais pas si ça m'a... Enfin, tout inspire, bon, tu viens jamais de nulle part, quoi, de toute façon. Ouais. Tout ce que t'as écouté quand t'étais gamin, forcément, ça m'a... mon père écoutait aussi Simon et Garfunkel, va savoir si ça m'a pas marqué aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, forcément. Mais par exemple, un Gainsbourg, il a fait sonner aussi, c'est un petit peu le précurseur à faire sonner sur de la musique, on va dire, moderne, des paroles en français. Et je pense, en tous les cas, pour la pop, il a inspiré un paquet de monde, et même à l'étranger, quoi. C'est le seul, on va dire, chanteur français, on va dire, moderne, qui a eu de l'influence sur des étrangers, enfin, des Anglais notamment. Mais. Je pense que. Ouais, il n'y aurait peut-être pas eu Bachung sans Gainsbourg, enfin, je pense, je sais pas. Il a commencé à mettre des mots modernes aussi dans la chanson. Oser des choses. Enfin, je pense qu'il a modernisé vraiment. Il a amené ce côté. Il a modernisé vraiment la chanson française. Quoi.
complexe de Peter Pan sur De Canu dans musique, etc. avec la chanson Le Chant du Damné, toujours extrait pardon, de l'album Rockin' Blunk. Dire un mot, le complexe de Peter Pan sur ce morceau, sur le texte et sur la musique, comment il a vu le jour?
Bah là justement c'est une facette un peu plus blues dans ce qu'on fait quoi. J'aime bien jouer de temps en temps au bottleneck et voilà, ça donne. Et puis ce genre de morceau, c'est un petit peu un classique du genre, c'est-à-dire que c'est un peu la balade mortuaire, enfin on retrouve ça dans pas mal de groupes quoi, c'est ce genre de balade quoi.
On peut dire qu'il y a un côté gothique dans le complexe. Que vous revendiquez.
Là c'est un peu le morceau. Je te dis dans ce style, c'est un peu. Il y a pas mal de groupes qui ont fait des morceaux dans ce style. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler du gothic blues quoi. Et au niveau de la chanson, c'est pareil. C'est une histoire de mort vivant quoi. C'est un truc tout ce qu'il y a plus classique quoi.
Très réussi en tout cas. Donc je rappelle le nom de l'album, c'est Rockin' Blunk. Par contre, comment vous avez appris à jouer de la musique tous les deux, Jérôme, toi de la batterie et Ludo, toi de la guitare, pour arriver à ce niveau, autodidacte ou quand même école de musique et puis conservatoire ou des choses comme ça?
Autodidacte, en fait, le premier groupe qu'on a fait. Par exemple, on va pas laisser le choix comment les autres avaient pris leur instrument et il fallait un batteur. Donc je me suis mis à la batterie. Ludo, son instrument de base, c'était la basse. Lui, c'est pareil. Il fallait un bassiste, donc il a joué de la basse.
Je sais pas ce que c'était d'ailleurs.
Et après, en fait, j'ai pris quelques cours. Pendant au moins 4-5 ans, j'allais une fois par semaine prendre des cours. Ça permet aussi de sortir de ces schémas habituels, en fait, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et puis, c'est en jouant à deux, là, on est obligé d'être super précis. On n'a personne qui... Il n'y a pas une deuxième guitare, une basse qui planque la merde. Donc, quand on joue, on est vraiment obligé d'être ensemble, de faire gaffe à ce qu'on fait et d'essayer de lécher les choses, de pas faire de la merde.
Non, on y arrive aussi. On a ça, faire de la merde aussi.
Et puis dans votre bio, vous revendiquez le fait qu'il n'y ait pas de basse.
Et ouais.
Vous le revendiquez.
Bah ouais, parce que moi j'étais bassiste, donc je trouve ça drôle. D'ailleurs tu sais ce qu'on doit faire quand t'as un bassiste. Quand tu vois un bassiste en train de se noyer, tu vois.
Non.
Là tu lui jettes son ampli. Ça. Non mais en fait je pense que ça servait à rien la basse.
Ouais.
Putain, j'en ai joué des années, mais en fait ça sert à rien quoi. C'est une escroquerie. Bah j'ai en plus j'étais escroc, donc je peux te le dire.
Et toi la guitare par contre t'as appris comment
Bah tout seul du coup j'ai eu des passages un peu à la guitare sèche à des moments, puis je suis revenu à la guitare électrique et puis des potes qui te passent 2-3 plans, voilà comme ça. Puis aujourd'hui il faut dire qu'avec internet c'est assez pratique quoi, tu peux aller trouver des trucs, des tutoriels tu vois sur c'est peut-être plus facile d'apprendre à jouer de la guitare, enfin d'apprendre à jouer. Moi c'est pas j'en joue pas je suis pas on reste quand même vraiment très amateur, nous on n'est pas des virtuoses, et puis la virtuosité m'intéresse pas non plus plus que ça, si tu veux. J'ai pas ça m'intéresse pas de jouer plus vite que la lumière, faire des solos fantasmagoriques
c'est que ça sonne Le fait est que ça sonne le complexe de Peter Pan.
Après il faut faire sonner à deux quoi.
Ouais.
Donc des fois justement la recherche, tu vois, comme le premier morceau qu'on a passé, en fait c'est assez simple, mais bizarrement pour arriver à faire un truc simple qui sonne, et des fois ça demande plus de recherche, on va dire, de mise en place qu'un truc super compliqué au niveau, on va dire, mélodique. Du coup, on est plus dans une recherche d'efficacité quoi. À deux, c'est vraiment et puis il faut remplir les trous quoi, tu vois. C'est pas
Mais il faut savoir faire des trous aussi.
Et il faut savoir faire aussi des vides. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que le piège aussi, c'est de vouloir trop en mettre aussi. Quand t'es que deux, d'avoir peur que. Du peur qu'il n'y ait pas assez de choses, et du coup bah des fois aussi c'est pareil à l'inverse, et il faut qu'on arrive à prendre la distance et de se dire ouais bah là ça sert à rien ce qu'on fait là.
Et justement tu l'évoques là un peu le couple de musiciens que vous formez tous les deux, les deux frères Jérôme et Ludo, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'il y a des morceaux qui naissent, qu'il y a un disque, qu'il y a des disques qui paraissent, les concerts j'imagine. Bah, j'ai souvent moi l'alchimie du groupe quoi, mais c'est un peu que vous soyez un couple de musiciens, voilà, et que ça fonctionne.
En fait, moi, j'ai toujours joué qu'avec Jérôme, moi, comme batteur. Deux fois, j'ai joué avec d'autres batteurs, mais sinon, j'ai toujours joué qu'avec lui. Donc, à vrai dire, c'est je sais même pas trop ce que c'est de jouer avec quelqu'un d'autre, à vrai dire.
Donc c'était un vrai couple de musiciens, on peut dire.
Ouais. Ouais, ou de pas musiciens, quoi. Ou de gens qui essayent de faire de la musique. Musicien, ça, c'est toujours un terme qui me pose problème, parce que je me sens pas vraiment... je sais pas comment dire, je me sens pas... Pour moi, c'est... Je me sens un peu indigne de... Tu vois, pour moi, être musicien, c'est vraiment un truc... je sais pas, je me sens pas...
Musique classique, tu veux dire ?
Non, on est des rockers, quoi. Musicien, c'est trop pour nous,
quoi. Ouais, vous êtes un couple de rockers.
Un vieux couple de rockers.
Ah, ça fonctionne bien.
Écoute.
Bah, on a nos petites habitudes, tu vois, comme un vieux couple. En fait, quand Ludo, il propose des... Genre, il arrive avec un couplet, un refrain, un truc... On buffe, on fait tourner notre truc, ça aboutit à quelque chose ou ça aboutit à rien, mais on arrive à faire sonner maintenant tous les deux des petites boucles quand on fabrique des morceaux, et après on fait une mise en place de choses, si ça nous a plu, si ça marche, parce que on a pas mal de déchets et donc, et on met assez longtemps après pour finaliser un morceau. Une fois qu'on est parti sur notre base, le temps qu'on rajoute, qu'on réécoute, on s'enregistre en répète, et on réécoute, on voit les choses qui marchent, qui nous parlent, les choses qui sont pas bien, et voilà. Donc on a balancé je sais pas combien de morceaux qui étaient quasiment terminés, qui seront jamais enregistrés. Et après, ce qui nous aide aussi dans la compo, c'est aussi des fois un texte qui arrive et qui permet, où on met la musique dessus, quoi. En fait, on fait les deux, dans les deux sens.
Parfois, vous partez d'un texte.
C'est arrivé, oui.
Et en général, c'est comme tu disais, ouais, c'est un bœuf. Ludo arrive avec un riff de guitare et pour la création des morceaux, c'est ce que tu viens d'expliquer,
ouais,
en fait.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Bah, le mieux, en fait, c'est que des fois, quand tout arrive en même temps, c'est-à-dire que des fois, j'ai les paroles et la musique en même temps, et ça, c'est vraiment... c'est les morceaux, justement, qui sont souvent les mieux et à la limite, qui sont les plus rapides à faire, bizarrement. Mais bon, souvent, c'est plus... voilà, il faut moyenner, quoi. C'est pas souvent que ça arrive, quoi.
We'll be right back. Bombardier.
Le complexe de Peter Pan sur de canuts dans musique, etc. avec le morceau La tête à moteur. Ouais, et il y a des moments en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a une ligne de basse en fait, que toi, Ludo, tu fais la guitare en fait. On a l'impression qu'il y a une basse quoi.
Ouais, pourtant là c'est enregistré qu'une seule guitare. Mais c'est vraiment le principe de sortir sur un ampli basse aussi. Et c'est un ampli basse sur lequel j'ai coupé tous les aigus. Et j'ai mis une sorte de sub dessus, sub basse, et ça qui fait l'effet quoi. Mais il y a pas de basse enregistrée. Une guitare. Hein.
Le sens du texte peut-être, et puis aussi comment le morceau est né musicalement. C'est parti d'un bœuf, c'est parti d'un texte de Ludo, d'un riff de Ludo.
Alors, ce morceau, il est clairement affiché. C'est un hommage à Motorhead.
Ouais.
Et donc le texte en fait c'est que des morceaux de chansons de Motorhead.
D'accord.
En fait c'est des titres. À la base en fait ce morceau on avait fait une balade qui est sur le premier album et qui est vraiment guitare acoustique avec la voix et que derrière là on a eu envie de faire ce truc vraiment typé hard rock, à des gros clins d'œil.
Motorhead, j'avais pas capté en fait.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
J'ai pas le texte en tête, mais en fait tout le texte c'est que des titres de Motorhead, c'est ça?
Ah oui, bâti pour la vitesse, Bombardier.
D'accord.
Parti pour l'ivresse, quoi. Bon, si tu traduis en anglais, tu vas en retrouver pas mal de dedans. Et sinon, c'est aussi un morceau sur un God Michel. Voilà.
Sur un God Michel.
Voilà.
Objet sympathique.
Voilà. S'il en est. Mais hautement concurrentiel.
Une question que je pose souvent dans l'émission, il y a beaucoup de gens qui sont dont je fais partie qui sont fans de musique, mais c'est pas tout le monde qui apprend à jouer de la batterie, qui apprend à jouer de la guitare, qui fait des morceaux, qui enregistre des disques. Vous sauriez analyser votre motivation et puis comme c'est votre retour un peu 10 ans après, quand vous une sorte de comeback après quelques années plus paisibles, vous sauriez analyser ce qui vous a fait revenir à la musique et puis même toute votre vie à avoir joué de la musique et excuse-moi, t'aimes pas le terme Ludo, mais avoir une vie de musicien quoi.
Je pense que à la base c'est moi qui avais envie de refaire de la musique quand on s'est remis. Donc au départ le projet c'était avec d'autres musiciens, on n'était pas que tous les deux, donc un autre guitariste. Et alors au départ dans ce projet je jouais de la basse, c'était un autre ami qui jouait de la batterie. Cet ami nous a quittés donc je me suis remis à la batterie et finalement, ça a retrouvé que deux, et on a continué notre petit bonhomme de chemin en essayant de, ce que je disais tout à l'heure, de pallier au manque d'autres musiciens par des petites, la manière dont on compose pour que ce soit ça envoie la purée, même si on n'est que deux. Voilà.
Tu réponds pas tout à fait à la question. Moi, je te parlais plutôt de l'origine du désir, justement.
L'origine du désir. En fait, on a toujours fait de la musique. L'origine, je pense que mon père a beaucoup fait pendant ce sens-là. C'est déjà lui qui nous a aidé à payer nos premiers instruments aussi. Mon père joue de la guitare. Il aime chanter. Et je pense qu'il nous a filé le virus, puisqu'on a commencé à jouer, je sais pas, on avait 14-15 ans, à jouer, à faire du bruit. Et ma première batterie, c'est mon père qui me l'a acheté. C'était une batterie de cirque. une Pearl toute pourrie, mais ça permettait de jouer quand même. Et voilà, après on a continué parce que de toute façon on sait pas faire autre chose que ça, de vivre par la dans la musique. C'est notre passion, voilà quoi. Et ça nous permet de nous retrouver aussi. On fait d'autres choses que de la musique ensemble, mais ça nous permet quand même de se retrouver autour d'un projet tous les deux, et c'est plutôt cool, quoi. Voilà.
Ludo, peut-être que tu veux.
Bah écoute, ouais, moi j'ai. À l'automne de ma vie, j'ai dû me retourner sur cette existence. Non, je déconne. Non, je me suis rendu compte.
Non, bah, pourquoi pas.
Mais sans déconner, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour moi, le rock a vraiment changé ma vie. Je plaisante pas. C'est-à-dire que si j'avais pas écouté du rock et du punk en l'occurrence, parce que le punk a aussi ce côté, t'en as rien à foutre, tu prends une guitare, personne te jugera, ou en tous les cas, laisse personne te juger, fais ton truc. Et puis il y a le côté do it yourself, quoi, de ce côté-là. Puis ce côté, il faut pas avoir honte de ce que tu fais, quoi. Créatif, simplement créer. Et ça a changé ma vie, parce que du coup, je pense que j'aurais pas vraiment, mais vraiment pas du tout eu la même vie si j'avais pas écouté du punk à 15 ans, quoi. Et encore aujourd'hui, par rapport à ce que je fais dans la vie, à ce que je vis, effectivement, ça m'a. Alors des fois, tu te dis, c'est peut-être que j'aurais mieux fait de jamais écouter cette musique à la con. Mais ouais, voilà quoi. Et du coup, après des années, bah, tu te retrouves quand même finalement ce qui est kiffant. Moi, c'est bizarre. Hein, je bosse dans la musique comme je suis éclairagiste. Mais quand j'ai du temps libre, les week-ends où je bosse pas, bah, je vais voir des concerts avec des potes.
D'accord.
Et quand je vais pas voir des concerts, bah, on essaye d'en faire. Ouais, c'est un truc. Je trouve que le rock notamment, c'est vraiment une musique qui s'écoute en live, quoi. Et puis quand tu joues, c'est un super plaisir quand même de jouer dans un groupe et de jouer devant des gens. C'est voilà quoi. C'est un truc qui est pas tellement explicable, quoi.
T'es vraiment trop con. T'es trop serviable. T'es trop servile. T'es trop sérieux. T'es trop fébrile. T'es trop marrant. T'es trop navrant.
Complexe de Peter Pan sur Radio Canu dans musique, etc. avec le morceau Trop Con. On dit un mot de ce morceau, le complexe de Peter Pan.
Bah oui, c'était le morceau con. Il en fallait un. Hein. Et bah c'était celui-là.
Une chanson voilà. À texte, comme texte. Tout le monde l'a pu
entendre. Mais qui dit bien ce que ça veut dire en même temps, enfin, ouais. qui peut éventuellement éveiller des esprits. Enfin.
Ouais, oui. Peut-être. En fait, c'est surtout le truc, justement, on parlait de chansons en anglais. On aurait pu chanter ça en anglais, une chanson sans texte, personne se serait aperçu de rien. Parce que j'ai eu pas mal de remarques sur pourquoi cette chanson, où vous dites rien. Bah, si, enfin bon, c'est parce que.
Et si on entend bien les paroles de la fin, ça veut dire des choses.
Oui, non, moi je confirme que moi voilà, elle m'a parlé cette chanson. Hein.
Moi j'adore, en fait c'est mon titre préféré en fait, parce que j'aime bien le swing qu'elle a cette chanson.
On peut dire que c'est en fait le morceau qui clôt l'album.
C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, le dernier morceau.
On termine là-dessus quand on écoute Rock Blanc.
C'est ça. Et le choix de trucs...
Rocking Blanc, pardon.
C'est ça, Rocking Blanc. L'intro... moi, je l'entends comme un espèce de truc techno, quelque part. Un boom-boom techno. Et j'aime bien ce truc. Voilà. En réalité, on la joue bien plus vite que sur le disque.
D'accord.
Voilà.
Ludo, un mot à ajouter sur Trop
Con ?
Non.
Rien à ajouter.
Depuis le début de l'émission, on écoute donc votre dernier album qui s'appelle Rocking Blanc. Il y a 8 titres, peut-être évoquer votre expérience du studio, où ça a été enregistré, et si pour le complexe de Peter Pan, c'est un plaisir de passer par la case studio, où c'est le passage obligé pour fixer un peu les morceaux à un instant T.
Alors c'était enregistré au studio Sopadop aux Subsistances, par Nicolas Matagrin, qui est un ami à nous. Et puis en 6 jours, on a fait ça en 6 jours, donc c'est un peu, mine de rien, c'est assez speed, 6 hein, jours pour enregistrer 8 titres.
J'imagine, en fait, je pense qu'il n'y a pas le temps d'improviser, enfin, il faut qu'on arrive avec les morceaux calibrés.
Ouais, on a fait un peu des fois deux trois petites choses dessus, quand même, les morceaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de s'attarder dessus, non, malheureusement, mais bon, après, c'est. Ça permet aussi de garder le. Nous, on voulait garder aussi la patate, donc c'est enregistré guitare-batterie live, quoi.
Ouais.
Pour garder un peu l'énergie, quoi. Et puis.
La voix vient en dernier, en fait.
Et après, on a enregistré les voix, ouais. Ouais.
Il y a quelques petits re-rod guitare. Et. C'est tout.
Ouais. Et puis pour dire, en fait, oui, l'expérience de studio, enfin pour moi, c'est vraiment pas l'endroit où je suis à l'aise, mais voilà quoi. C'est finalement, après coup, je suis content de l'avoir fait, quoi, d'avoir gardé, tu vois, ça te permet de
d'avoir une trace.
D'avoir une trace. C'est comme le fait de faire un CD, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître dérisoire, mais un CD, un objet, je trouve que c'est, voilà quoi, on est d'un vieux monde, nous encore, tu sais, où il y avait des disques qui étaient sur des platines et tout.
Dont je fais partie, ouais.
Et dans ce vieux monde, pour nous, c'était très symbolique d'aller acheter un vinyle à l'époque et tout. C'était important. Puis on regardait la pochette. Et donc là, on est encore. Pour nous, il y a encore tout un imaginaire, tu vois, autour d'un album, quoi.
Parce qu'on peut dire aussi qu'il y a une super pochette. Je sais pas qui l'a faite, mais en fait, qui illustre bien votre musique, quoi. Je sais pas comment la décrire, mais je la montre aux auditeurs, voilà. Ils le voient pas, c'est la radio. Il y a une super pochette et c'est un très bel objet, ouais.
Alors la pochette, c'est ma fille qui l'a faite.
D'accord.
Qui est passionnée de dessin. En fait, la pochette, elle vient de la fiancée Tim Burton. Voilà, c'est vraiment du graphisme à la Tim Burton.
Qu'on écoutera pour se quitter, en fait.
Voilà, c'est ça. Et voilà, donc en fait, ce truc, ce disque a vraiment été fait en famille. Donc c'est ma fille qui a dessiné une de mes filles qui a dessiné la pochette devant. Et la petite derrière, c'est ma deuxième fille qui l'a faite.
D'accord, voilà. C'est très joli. Voilà. C'est...
Et donc, l'informatique de tout ça, c'est ma femme qui l'a fait.
Voilà. D'accord.
Tout mettre sur les Photoshop, les trucs, les découpes, tout ça.
C'est une entreprise familiale.
Voilà.
C'est vraiment...
Mais du coup, je te coupe, Jérôme, mais toi le studio, Ludo en a parlé, mais toi, tu n'as rien dit dessus. Toi, en tant que batteur, comment...
Alors, on avait le premier album qu'on a fait, on l'a fait à la maison, dans des conditions...
Je pense qu'on n'aura pas le temps de l'écouter, qui s'appelait Le Complexe de Peter Pan, tout simplement.
Voilà. Donc, on l'a fait tout seul à la maison. On avait des mauvaises conditions d'écoute, etc. Ça a été une galère sans nom. Et donc, moi, j'avais pas envie de repartir dans ce truc. Et donc, quand on est allé au stud, moi, pareil, je suis pas hyper à l'aise. Mais Nicolas, là, qui nous a enregistré, a su vraiment nous mettre à l'aise. Et on était dans des conditions vraiment optimales pour le faire. Et... Je l'ai bien vécu cette fois, et pareil, je suis comme Ludo, je suis bien content du résultat. Nicolas, là, c'est un super mixeur. Il a fait des choses, il a fait un petit peu directeur artistique, il nous a fait faire des choses différentes que nous on avait imaginé au départ. Il a vraiment amélioré le truc en nous mettant bien. Voilà. C'est lui qui fait le solo sur le morceau qu'on a entendu avant sur Motorhead. Là.
D'accord.
Donc voilà, c'était vraiment à la cool. On s'est pas retrouvé dans un espèce de truc où on a eu la pression, etc. On a eu une pression normale puisqu'on a 6 jours pour enregistrer 8 titres, comme dit Ludo, ça speed. Mais on avait bossé avant moi je suis très content du résultat en tout cas. Voilà.
Ouais, c'est un très bel album. Je vous propose le temps file à une vitesse folle. Je vous propose qu'on écoute le morceau L'Amoureux. C'est parti. Ouais.
Allez.
complexe de Peter Pan sur du canu dans musique, etc. Avec le morceau L'amoureux. On dit un mot sur ce morceau, le complexe de Peter Pan. Une chanson d'amour, on peut dire.
Ouais, peut-être. Ouais, c'est un jeune prêtre amoureux. Hein, voilà. C'est au résumé la chanson. C'est plutôt l'histoire.
Il y en a.
Ouais. Bah au moins comme ça, il touche pas nos gosses. Hein,
Dédicace.
Ouais, c'est plus l'histoire. C'est que avant il y avait les prêtres ouvriers, tout ça, et là c'était plus le mec, je le voyais dans l'histoire. Ouais, j'aurais pu en faire, tu sais, faire une dénonciation de la pédophilie, je sais pas quoi, mais je trouvais plus drôle d'en faire un mec qui est un peu curé, comme tu vois, pour lui c'est un job, quoi, c'est un boulot, quoi. C'est l'ouvrier qui va au job, tu sais, il lui reste, t'as encore 3 mariages à faire, t'as alors que Lolo t'es le matin.
Le sermon à faire.
Ah putain, voilà. Il y avait de l'hostie sur la planche, quoi. Et puis voilà, donc c'était pour prendre un peu ça, un peu à l'envers.
Mais il y en a, enfin moi j'ai connu une dame qui s'occupait de. Non, c'était plutôt des bonnes sœurs, mais qui avaient fait ça à cause de la famille, qui n'étaient pas spécialement croyantes, ouais. Et qui avaient passé leur vie à faire ça.
Ouais, ça existe, ça, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, quoi. C'est comme un job, quoi.
Ouais, mais il y en a pour qui c'est le cas. Hein. Donc je crois que vous venez de Bourg-en-Bresse, c'est ça?
C'est ça, ouais.
La région Rhône-Alpes, pour un groupe comme le complexe de Peter Pan, c'est bien pour se produire sur scène. Vous pensez que c'est une chance d'être de ce coin-là, ou alors c'est un peu... Est-ce que vous avez des facilités à vous produire sur scène, vu le type de musique que vous faites, en fait? Que ce soit Lyon, Saint-Etienne, hein, Bourg-en-Bresse, ouais. Enfin bref.
Bon, ouais, des facilités, pas vraiment, je dirais. Mais je crois pas qu'on soit une région pire que les autres, hein, loin de là. Après, c'est plus. Nous, on a plus de difficultés à. Parce qu'on est un peu des branleurs, quoi. Donc pour trouver des concerts, s'ils nous tombent pas tout cuit dans le bec, donc voilà, c'est surtout ça. Mais je pense qu'il y a des, ouais, il y a des endroits pour jouer et voilà, quoi, il faut y aller. Je pense qu'on n'y va pas assez, quoi, nous, dans l'histoire. C'est pas, je pense pas, parce que j'ai écouté ta précédente émission, en fait, et ça m'a amené à une réflexion. Quand on disait que le rock, c'était difficile de faire du rock dans une ville, hein, nous qui avons connu aussi les années, fin des années 80, on a joué quelques fois à Lyon, tu vois, dans des bars, et c'était, chaque fois, c'était trop fort, c'était vachement difficile aussi à cette époque-là. Il faut.
Ouais, je tiens à noter que c'était les Zoé Bactabas qui était la semaine dernière, ouais. Qui se plaignait qu'en fait, ouais, on pouvait pas jouer trop fort quand on faisait du rock.
Je connais pas trop, moi je connais pas trop les cafés à Lyon, mais en tous les cas, je peux te dire qu'à l'époque, le premier groupe qu'on avait fait, on avait joué à la Migraine à l'époque.
La Migraine, j'ai bien connu, moi.
C'était des années, ouais, 90, quoi, je sais pas, entre 88 et 90, je sais plus exactement quelle année, enfin bref, peu importe. C'était pareil, hein, jouer aussi à l'atmosphère, on pouvait pas jouer bien fort, et c'est pareil, il y a toujours eu des problèmes de voisinage, il faut pas se leurrer, il faut pas croire qu'il y a une époque bénie, hein. Et je dirais que là, avec toutes les SMAC qu'il y a en France, il y a peut-être plus de facilité à jouer quand tu arrives à rentrer dans ce réseau. Après, c'est le seul truc, moi j'ai l'impression que tout ce maillage d'associations qu'il y avait à une époque qui faisait jouer des groupes, elles se sont soit professionnalisées, sont devenues des SMAC, soit pour elles c'est un peu difficile de vivre.
Et pour ceux qui ne connaissent pas,
scène de musique actuelle, ouais. Parce que c'est un peu fleuri partout en France, hein. De toute façon, il y a des petites salles
où ils s'occupent de groupes en particulier, voilà. Qui les coachent,
ouais, ils s'occupent de groupes, ils ont des salles de répète, puis ils sont aussi salles de concert. Mais ça, tout ce qu'a apporté, hein, vraiment, justement ce réseau, ça a apporté vraiment de la professionnalisation, on peut dire, au niveau des groupes. On joue aussi dans des très bonnes conditions qu'il n'y avait pas à une époque, mais à l'inverse, pour accéder à ces scènes, des fois c'est un peu plus compliqué, je pense, pour des groupes amateurs, quoi. Moi, ce que je trouve en France qui est compliqué, c'est entre le purement amateur et le professionnaliste, entre le gros et le tout petit. Le moyen, c'est très difficile, je trouve. Il y a une sorte de vide. C'est, je pense que pour un groupe qui voudrait vivre de sa musique, c'est très difficile au départ. Si t'as pas un tourneur,
c'est la difficulté d'ailleurs de beaucoup de groupes, ouais, quoi. Ouais.
Le moyen est très difficile, c'est à dire que entre l'amateur et le professionnel, il y a quand même une marche à passer, un palier. Je dirais qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'en France, par rapport à une époque, il y a plus de seconde division, quoi. C'est toi tu joues en première, soit t'es en amateur, mais t'as plus cette espèce de zone où tu vois, tu peux jouer en même temps avoir un petit job, c'est vachement difficile, quoi. Enfin, c'est un passage qui me semble très difficile en tous les cas. Pour les jeunes groupes, nous on est vieux, on est cons, on peut rien à foutre, quoi. On va bientôt mourir.
Idem. Moi aussi j'ai bientôt mourir. On va se quitter avec. Donc là, il est 12h05, on a un petit peu dépassé, mais donc pourquoi pas, c'était intéressant. Ça, mieux vaut ça que peut-être la bande continue de Radio Canu, je sais pas. Et je pense que si. Mais peut-être veut dire où on vous retrouve, le complexe de Peter Pan, pour ceux qui aiment bien votre musique. Alors moi, je tiens à dire que, enfin, à la prochaine occasion, je mettrai le morceau qu'on a écouté en tout premier, la lettre de suicide sur les bandes continues de la radio.
Ouais, c'est vraiment sympa.
Donc ça va tourner, je pense, pour ceux. Donc il y a le complexe de Peter Pan qui va tourner sur Radio Canu.
Ouais, génial.
Et puis, on vous retrouve, peut-être un Facebook, un SoundCloud. Pour ceux qui veulent le disque aussi, éventuellement.
Alors, pour ceux qui veulent le disque sur le distributeur Mon Disquaire est mort. Sinon, on a un site internet, c'est lecomplexedepeterpan.fr. On a un Facebook, une page Facebook qui est Le Complexe de Peter Pan, tout attaché, avec un L majuscule. Voilà.
D'accord.
Et c'est pas une blague, Mon Disquaire est mort. C'est
voilà. Au prix de 5 euros.
Au prix de 5 euros.
De 5 euros.
Et oh, c'est là, un très bon album de rock, de black, on peut dire.
De rocking blank.
Et c'est, la pochette est vraiment belle, donc pour Noël, c'est un très beau cadeau.
Non, c'est vrai, en plus, la pochette est magnifique. Tu féliciteras tes deux filles pour la pochette, parce que la pochette est magnifique, c'est un très bel objet. Je confirme.
On aurait aimé faire ça en vinyle, mais on n'avait pas les sous.
Bah, peut-être. Cette émission, comme vous allez faire des ventes records.
Non, mais si je peux passer un dernier message, moi par contre, donc du coup, on est toujours à la recherche de concerts, donc voilà, si jamais notre musique vous intéresse, et, n'hésitez pas par le Facebook ou notre site à nous contacter, merci. Et puis Guillaume, je tenais vraiment à te remercier de nous avoir invité,
c'était un plaisir partagé.
Eh
bien,
merci.
Je tenais à dire qu'en fait on pourra retrouver cette émission sur les blogs de Radio Canu, la rubrique musique, etc., cet après-midi vers 14-15h avec le complexe de Peter Pan. Je mettrai les... Il n'y aura pas les liens parce que je ne sais pas faire, mais il y aura les adresses où on peut retrouver le complexe de Peter Pan. Et puis je vous propose qu'on se quitte avec une dernière chanson qui s'appelle La Fiancée. On en dit un mot ou peut-être qu'on reparle un petit coup après. On reparle un petit coup après.
Oh non, bah c'est bien. On va se quitter sur La Fiancée. Moi, je pense que c'est bien.
On se quitte sur La Fiancée.
Ouais. Sur de la musique, ouais. Eh ben merci bien.
Un mot sur La Fiancée.
Eh ben La Fiancée de Tim Burton, voilà.
Ah, oui,
tout
oui.
est dans le titre.
Voilà, c'était musique, etc. avec le complexe de Peter Pan.
Elle écoute.
C'était le complexe de Peter Pan dans musique, etc. sur Radio Canu. C'était la dernière émission de la saison. Il n'y a pas d'émission le 27 décembre 2015. On se retrouve le 3 janvier 2016 avec Sarah Mikowski et son nouvel EP. Je rappelle qu'on pourra retrouver cette émission sur les blogs de Radio Canu et la rubrique musique, etc., comme d'habitude. Et pour finir, je vous laisse avec un petit bout de générique. Je vous rappelle qu'à 13h, il y a l'émission Le Petit Bazar qui passe des musiques des quatre coins du monde, souvent thématiques, souvent sur des thèmes, et puis... Aussi, il reçoit aussi des artistes tels que le groupe Le Complexe de Peter Pan. Mais je vous laisse avec un petit bout de générique pour clore l'émission. Donc je vous dis au 3 janvier avec Sarah Mikowski.